Chapitre 18. Des flocons à demi fondus tombaient depuis leur départ. Parfois cela tournait à la tempête de neige et un rideau blanc se dressait sur leur chemin. Comme anesthésié, Richard chevauchait derrière Verna, la bride de la troisième monture attachée au pommeau de sa selle. Quand il neigeait beaucoup, le sourcier n'apercevait plus qu'une silhouette indistincte devant lui. Il ne s'était pas demandé une seule fois où ils allaient et n'avait même pas pensé à resserrer les pans de son manteau autour de lui. Le froid ne comptait pas. Plus rien ne comptait. Ses pensées dérivaient aussi légères que les flocons. Il n'avait jamais aimé quelqu'un comme il aimait Callan. Elle était devenue sa vie. La douleur était trop forte pour qu'il réfléchisse à autre chose. Pourquoi avait-elle douté de son amour? Pourquoi l'avait-elle forcé à la quitter? Perdu dans son désespoir, il ne comprenait toujours pas pour quelle raison elle lui avait demandé d'accepter le collier. Une preuve d'amour? Ne lui avait-il pas dit ce que cela signifiait pour lui? S'il ne lui avait pas caché certaines choses, elle aurait peut-être compris. Sa poitrine brûlait à l'endroit où Darkenral l'avait touché. Levant une main pour palper le pansement, Richard remarqua enfin qu'il ne neigeait plus. Le plafond de nuages bas, irrégulier, laissait filtrer un peu de lumière. Entre le sol grisâtre et le ciel brun s'étendait un paysage vide et tout aussi incolore. D'après la position du soleil, on approchait de la fin de l'après-midi. Il chevauchait depuis des heures et Sir Verna n'avait pas desserré les lèvres. Pour la première fois, il osa poser les doigts sur le collier. Le métal lisse était glacé. Quelques jours plus tôt, il s'était promis de ne plus jamais en porter un, et voilà qu'il se parjurait déjà. Pire encore, il avait mis le Radahan lui-même, parce que Callan le lui avait demandé. Comme une preuve d'amour, avait-elle dit. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté la proposition de Verna, il tenta de penser à autre chose. Callan devait passer au second plan, sinon il en deviendrait fou de chagrin. De plus, il était le sourcier, un homme confronté à des problèmes dramatiques. Serrant les cuisses, il fit accélérer son cheval et rattrapa la sœur de la lumière. Un bras levé pour abaisser la capuche de son manteau, il s'avisa qu'elle n'était même pas sur sa tête et passa les doigts dans ses cheveux humides. Puis, il se tourna vers la sœur. « Nous devons parler. Vous ignorez des choses très importantes. »«
Et de quoi s'agit-il ? »
demanda Verna impassible.
« Je suis le sourcier de vérité. »
« Comme si je ne le savais pas. »
Le calme de Verna et son désintérêt commençaient à taper sur les nerfs de Richard.
« En tant que tel, j'ai des responsabilités. Comme je vous l'ai dit la première fois, il se passe des choses dont vous ne savez rien, des choses dangereuses. »
Verna ne réagit pas.
« Le gardien essaie de sortir du royaume des morts. Bon sang, vous savez ce que ça signifie ?»«
Nous ne prononçons jamais son nom. Ne le fais pas non plus, car ça attire son attention. Quand nous devons parler de lui, nous disons « celui qui n'a pas de nom ».
Elle lui parlait comme à un enfant. Callan était en danger de mort, et cette femme le traitait comme un gosse.
« Je me fiche de vos problèmes de patronyme. Il tente de s'échapper, et j'ai déjà attiré son attention, vous pouvez me croire.
« Celui qui n'a pas de nom tente sans cesse de s'évader. »
Richard prit une grande inspiration et opta pour une nouvelle approche.
« Le voile est déchiré. Cette fois, il a des chances de réussir. »
Verna tourna la tête vers Richard et tira sur le haut de sa capuche pour mieux le dévisager. Les cheveux bruns bouclés s'échappèrent de leur prison de tissu. La sœur plissa le front. D'amusement aurait parié le sourcier.
« Le Créateur lui-même a exilé celui qui n'a pas de nom dans le royaume des morts, et c'est lui qui a mis le voile en place pour l'y emprisonner. »
Verna s'autorisa un petit sourire.
« Celui qui n'a pas de nom n'arrivera jamais à s'évader. N'aie aucune inquiétude, mon enfant. »
Furieux, Richard fit faire un écart à son cheval pour qu'il percute celui de Verna. Au passage, il s'empara des rênes de la monture de la sœur pour l'empêcher de se cabrer ou de ruer.
« Ne m'appelez pas mon enfant !» parce que je porte un collier. Ne me donnez jamais un surnom, m'entendez-vous? Je suis Richard Rall. »
Verna ne se laissa pas démonter.
« Désolé, Richard. C'est simplement une habitude, parce que les autres étaient tous si jeunes. Je ne voulais pas t'humilier. »
Devant tant de calme, le sourcier se sentit soudain honteux de son éclat. Comme un enfant, justement.
« Excusez-moi d'avoir crié.
dit-il en lâchant les rênes du cheval de Verna.
Je ne suis pas de très bonne humeur, vous savez.
Au fait, je croyais que tu t'appelais Cypher.
Richard tapota son manteau à l'endroit où le pansement recouvrait sa blessure.
C'est une très longue histoire. George Cypher m'a élevé comme si j'étais son fils. Mais j'ai découvert récemment que Darkenral était mon père.
Darkenral? L'homme que tu as tué? Celui qui avait le don? Tu as assassiné ton père?
Inutile de me regarder comme ça. Vous ne savez pas quel monstre c'était. Il a emprisonné et torturé des milliers de gens. L'idée qu'il ait touché ma mère me répugne. Mais je suis son fils et je n'y peux rien. Si vous espérez que je regrette mon acte, vous risquez d'attendre jusqu'à la fin des temps.
Verna hocha la tête avec une compassion qui semblait sincère.
J'ai de la peine pour toi, Richard. Parfois, le Créateur nous réserve un destin très embrouillé et nous passons notre temps à nous demander pourquoi. Mais j'ai une certitude. Il sait ce qu'il fait.
Du bavardage. Cette femme lui vendait ses boniments. Tant pis, il devait insister.
Le voile est déchiré, répéta-t-il. Et le gardien le franchira bientôt.
Celui qui n'a pas de nom,
souffla la sœur menaçante.
Appelez-le comme ça vous chante, mais il va venir dans notre monde. Nous sommes tous en danger.
Callan était en danger. Richard se fichait que Verna le réduise en cendres si l'envie lui en prenait. Sa vie ne comptait plus, mais il voulait savoir Callan en sécurité.
Qui t'a raconté ça?
Demanda la sœur, l'air de nouveau amusée.
Une voyante nommée Shota.
Il omit de mentionner qu'elle l'avait également accusé d'avoir déchiré le voile.
Si on ne fait rien, le garde... Celui qui n'a pas de nom s'évadera.
Une voyante, et tu l'as cru.
Tu penses qu'elle dise la vérité aussi directement?
Elle avait l'air rudement sûre de son fait. À mon avis, elle n'aurait pas menti sur un sujet pareil.
Verna semblait s'amuser de plus en plus franchement.
Si tu avais rencontré d'autres voyantes, Richard, tu saurais qu'elles ont une très étrange conception de la vérité. Elles sont parfois animées de bonnes intentions, mais leurs propos n'en restent pas moins embrouillés et confus.
Cette analyse judicieuse calma un peu Richard. Verna savait de quoi elle parlait et son opinion sur les voyantes recoupait en gros la sienne.
Pourtant, elle paraissait parler sérieusement, et elle mourait de peur.
Rien d'étonnant. Toute personne saine d'esprit redoute celui qui n'a pas de nom.
Mais ça ne la rend pas plus crédible.
Il n'y a pas que ses paroles. Certains événements se sont produits.
Lesquels?
Un grinceur est venu.
Un grinceur? Tu as vu un de ces monstres?
Vu? Il m'a attaqué, oui.
Les grinceurs sortent du royaume des morts. Celui qui n'a pas de nom en a envoyé un pour qu'il me tue.
Quelle imagination, Richard! Tu as écouté trop de comptines pour enfants.
Que voulez-vous dire?
Demanda le sourcier, étouffant la colère qu'il sentait remonter en lui.
Les grinceurs viennent bien du royaume des morts, comme les autres monstres. Les chiens à cœur, par exemple. Mais personne ne les envoie. Ils s'échappent, voilà tout. Ces créatures vivent dans un monde qui s'étend entre le bien et le mal, ou entre l'obscurité et la lumière, si tu préfères. Le Créateur n'a pas voulu que l'univers soit parfait et paisible. Nous ne comprenons pas ses raisons, mais il en a toujours et il ne se trompe jamais. Les grinceurs existent peut-être pour nous faire voir la face sombre de la création. Pour être franche, je n'en sais rien. Mais ce sont simplement des monstres qui nous envahissent de temps en temps. Ceux qui sont nés avec le don les rencontrent assez souvent. Il est possible que la magie les attire. Ou que ce soit une sorte d'épreuve, voire une façon d'avertir de ce qui les attend ceux qui s'éloignent des voies de la lumière.
Certaines prophéties affirment que celui qui n'a pas de nom enverra ses monstres quand le voile sera déchiré.
Comment serait-ce possible, Richard? Le voile a-t-il été déjà déchiré?
Comment le saurais-je?
Le sourcier réfléchit quelques instants.
Mais ça ne paraît pas possible. Sinon, comment aurait-il été réparé? Et s'il était resté ouvert, ça ne serait pas passé inaperçu. Où voulez-vous en venir?
Si le voile n'a jamais été déchiré, comment les grinceurs seraient-ils arrivés ici jadis? Comment connaîtrions-nous leur existence? Par quel miracle leur aurions-nous donné un nom?
Nous connaissons peut-être leur nom pour l'avoir vu dans une prophétie.
As-tu lu celle dont tu parles?
Non, c'est Callan qui me l'a raconté.
Et l'a-t-elle lu de ses propres yeux?
Non, c'est une chanson que des sorciers lui ont apprise.
Une chanson?
Verna sourit.
Richard, je ne veux pas me moquer de tes angoisses, mais les histoires qu'on répète de bouche en bouche, surtout dans une chanson, sont aussi changeantes que le temps au printemps.
Quant aux prophéties, eh bien, elles sont encore plus difficiles à comprendre que les prédictions des voyantes.
Pendant ta formation, tu seras peut-être autorisé à les consulter. J'ai lu toutes celles que nous détenons, et elles dépassent la compréhension de la plupart des gens. Si on n'est pas suffisamment prudent, on y trouve tout ce qu'on a envie d'entendre. Enfin, on peut s'en persuader. Certains sorciers passent leur vie à les étudier, et à la fin, ils ne savent pas grand-chose de plus.
Vous prenez à la légère un terrible danger.
Crois-tu que déchirer le voile soit si simple?
Aie la foi, Richard. Le Créateur a mis le voile en place. Fais-lui confiance.
Le sourcier chevaucha en silence un long moment. Les propos de Verna tenaient la route. Sa vision du monde en était ébranlée. Il ne put pas pousser plus loin sa réflexion, l'esprit trop plein de Callan pour être vraiment clair. Il en revenait toujours là. Elle l'avait forcé à mettre un collier pour lui prouver son amour. Cette trahison lui déchirait les entrailles.
« Sœur Verna, »
lança-t-il soudain,
« je ne vous ai pas encore dit le pire. »«
Vraiment ? » ?»«
Confie-toi à moi, Richard. Je pourrais sans doute apaiser tes angoisses. »«
Darkenral, l'homme que j'ai tué. Mon père, quoi. » »« Après sa mort, il a été envoyé dans l'autre monde pour être livré au gars... » À celui qui n'a pas de nom. La nuit dernière, il a franchi le voile. Il rôde dans notre monde avec pour mission de finir de le déchirer.
Et tu es sûr qu'il fut livré à celui qui n'a pas de nom? Tu étais dans le royaume des morts et tu l'as vu être accueilli par le maître des lieux?
Cette femme avait l'art de le mettre en rogne, mais Richard s'efforça d'ignorer la pique.
J'ai parlé à Ral au moment de son retour.
Il m'a dit ce qu'il venait de faire, et il a ajouté que celui qui n'a pas de nom nous aurait tous.
Un mort rôde dans notre monde, vous comprenez? S'il est ici, c'est que le voile a bien une déchirure.
Donc, tu étais tranquillement assis et ce mort est venu te faire la causette, c'est bien ça?
C'était pendant le conseil des devins, chez les hommes d'Adobe. Je voulais parler aux esprits de leurs ancêtres pour trouver un moyen de réparer le voile. Mais c'est Ral qui est venu.
Eh bien, tout est clair à présent,
jubila Verna. Que voulez-vous dire?
Verna prit sa voix d'institutrice résolue à dissiper les brumes qui polluent l'esprit des enfants.
As-tu bu ou mangé quelques décoctions sacrées avant de voir ce fantôme?
Non.
Si je comprends bien, vous vous êtes assis en cercle et le spectre est arrivé.
Pas exactement.
Avant, les hommes d'Adobe organisent un banquet. Pendant 2 jours, les anciens boivent et mangent ce que vous appelez des décoctions sacrées. Mais je n'ai rien avalé de tout ça. Ensuite, Callan et moi avons été enduits de boue. Puis nous sommes entrés dans la maison des esprits avec les 7 anciens. Nous nous sommes assis en cercle, ils ont incanté un moment, et nous avons tous pris une grenouille esprit dans un panier pour la frotter contre un petit cercle de peau propre sur nos poitrines.
Des grenouilles ?
Coupa Verna.
Des grenouilles rouges?
Oui.
J'en ai entendu parler. Ta peau a picoté, n'est-ce pas? Ensuite, tu as vu le fantôme.
C'est une version très écourtée, mais on peut dire les choses comme ça. Où voulez-vous en venir?
As-tu souvent arpenté les contrées du milieu? Leurs peuples te sont-ils familiers?
Non, je viens de Terre d'Ouest et je découvre à peine les contrées.
Sur ces terres... Et il y a beaucoup de gens, des incroyants, qui ignorent tout de la lumière du Créateur. Ils vénèrent des idoles ou des esprits, car ce sont des sauvages qui s'adonnent à de fausses religions. Presque tous ont un point commun, ingérer des aliments ou des boissons afin de voir leurs esprits protecteurs.
Verna tourna la tête vers Richard pour s'assurer qu'il écoutait bien.
Pour avoir des visions, les hommes d'Adobe utilisent la substance que sécrètent les grenouilles rouges.
Des visions ?
Le Créateur a mis beaucoup de plantes et d'animaux à notre disposition. Parfois, le pouvoir de ces dons est invisible. Par exemple, une tisane à base d'écorce de saule peut faire tomber la fièvre.
Nous ne la voyons pas agir, mais nous savons qu'elle est efficace. Il y a aussi des choses qui, si nous les mangeons, risquent de nous rendre malades, voire de nous tuer. Le Créateur nous a donné l'intelligence pour savoir les reconnaître. Certaines substances, si on les ingère ou si on les met en contact avec la peau, nous donnent des visions. Comme quand on rêve, si tu veux. Les sauvages croient que ces images sont réelles. Voilà ce qui t'est arrivé. La substance sécrétée par la grenouille t'a donné des visions. Ta peur, ô combien justifiée, de celui qui n'a pas de nom, t'a poussé à les croire réelles. Mais si ces esprits existaient, pourquoi faudrait-il absorber des produits spéciaux pour les voir? Richard, ne pense pas que je me moque de toi. Les visions peuvent paraître très réelles, mais elles ne le sont pas.
Richard n'était pas convaincu par les explications de Verna. Pourtant, il savait à quoi elle se référait. Dès son plus jeune âge, Zed l'avait emmené dans la forêt pour cueillir des plantes médicinales. La feuille d'ahomme, par exemple, soulageait la douleur et accélérait la guérison des petites blessures. Pour les plaies plus graves, la racine de mimosa faisait des merveilles. D'autres herbes facilitaient la digestion, aidaient les femmes à accoucher ou protégeaient des jeteurs de sorts. Zed lui avait aussi montré les plantes dangereuses qui pouvaient empoisonner et celles qui donnaient des hallucinations. Mais il n'avait sûrement pas imaginé Darkenral.
« Il m'a touché, et son contact m'a brûlé la peau, » dit-il en tapotant l'endroit où Ral l'avait marqué. « Ce n'était pas une illusion. Darkenral était là, il m'a touché, et ma peau a brûlé, je n'ai pas rêvé ça. »
« Il peut y avoir deux explications, » dit Verna, toujours aussi sûre d'elle. « Après avoir frotté la grenouille contre ta peau, tu n'as plus vu la pièce où tu étais, je parie. »«
Exact. Elle a été comme avalée par un vide obscur. »«
Eh bien, même si tu ne la voyais plus, elle était toujours là. »« Et je suis sûr que ces sauvages avaient allumé un feu pendant ce conseil. »« Quand tu as été brûlé, tu n'étais plus assis à ta place d'origine, n'est-ce pas? Tu t'étais déplacé. »«
Oui, » admit Richard à contre-cœur.
Étant drogué, tu es sans doute tombé dans la cheminée, et tu t'es brûlé tout seul, mais tu as imaginé qu'un esprit t'avait touché.
Richard commençait à se sentir franchement idiot.
Verna disait-elle vrai? Ses explications avaient en tout cas le mérite de la simplicité. Était-il aussi crédule que ça?
Vous avez mentionné deux explications. Quelle est la seconde?
La sœur ne répondit pas tout de suite. Et quand elle parla, sa voix était plus basse et sinistre que précédemment.
Celui qui n'a pas de nom essaie toujours de nous attirer dans son camp. Bien qu'il soit prisonnier derrière le voile, ses tentacules parviennent à s'introduire dans notre monde. Il peut nous nuire et il est très dangereux. L'obscurité est redoutable, Richard. Quand des personnes ignorantes fraient avec le mal, elles risquent d'attirer l'attention de celui qui n'a pas de nom ou de ses sbires. Donc il est possible que tu aies été brûlé par un démon. »
Elle jeta un regard sinistre au sourcier.
« Certaines choses sont redoutables, et les gens se montrent trop stupides pour les éviter. Parfois ils y perdent la vie. »
Elle parut soudain moins accablée.
« C'est une de nos missions, enseigner aux ignorants le chemin qui mène à la lumière du Créateur et leur apprendre à se tenir éloignés de l'obscurité. »
Richard ne trouva rien à objecter à l'analyse de la sœur. Ses explications se tenaient. Et si elle avait raison, Callan n'était pas vraiment en danger. Il désirait tellement le croire, plus que toute autre chose au monde. Et pourtant...
J'admets que tout ça est possible, mais je doute encore. Il y a des choses que je ne peux pas exprimer par des mots.
Je comprends, Richard. Reconnaître qu'on s'est trompé n'est pas facile. Qui aime avouer qu'on l'a abusé et fait passer pour un idiot? Se voir sous ce jour est blessant. Mais grandir et apprendre implique de chérir par-dessus tout la vérité, même quand il faut pour cela regarder en face ses propres aberrations.
Crois-moi, je ne te méprise pas d'avoir cru à tout ça.
Tes peurs étaient compréhensibles. La voie de la sagesse, c'est d'avancer sur le chemin de la vérité et de se remettre en question quand ça s'impose.
Mais tous ces événements sont liés.
En es-tu sûr? Une personne sage évite de voir des connexions là où il n'y en a pas. Elle regarde la vérité telle qu'elle est, même quand elle se présente sous un jour inattendu. La vérité, Richard,
il n'y a rien de plus beau et de plus pur. »
La vérité, marmonna le jeune homme. Pour le sourcier, c'était le centre de tout. Ce mot n'était-il pas écrit en fil d'or sur la garde de son arme, l'épée de vérité? Les derniers événements lui inspiraient des sentiments qu'il ne pouvait traduire en mots devant cette femme. Avait-elle raison? S'aveuglait-il lui-même? Il se souvint de la première leçon du sorcier. Les gens croient n'importe quoi parce qu'ils désirent que ce soit vrai, ou au contraire parce qu'ils le redoutent. D'expérience, il se savait aussi vulnérable à ce phénomène que n'importe qui. Gober un mensonge pouvait aussi lui arriver. N'avait-il pas pensé que Callan l'aimait? Qu'elle ne lui ferait jamais de mal? Et elle l'avait trahi, rejeté.
« Richard, dit Verna, je ne te mens pas. Mon but est de t'aider. »
Il ne répondit pas, prouvant ainsi qu'il ne la croyait toujours pas.
« Au fait, où en es-tu avec tes migraines ?»
La question lui fit l'effet d'un tremblement de terre. Enfin, pas la question, mais plutôt la réponse qu'il fut contraint de donner.
« C'est fini. Je n'ai plus mal à la tête. »
Verna sourit de satisfaction.
« Comme je te l'avais promis, le Radahan t'en a débarrassé. Nous sommes là pour t'aider, Richard. Je ne te le répéterai jamais assez. »
Peut-être, mais vous avez également dit que le collier est là pour me contrôler.
Pour que nous puissions te former. Un professeur doit avoir l'attention de son élève, il n'y a rien de plus.
À part me faire souffrir. C'est ce que disait la troisième proposition.
Verna haussa les épaules, lâcha les rênes un instant et leva les bras au ciel.
Je viens de te malmener. En démontrant que tu croyais à des absurdités, ne t'ai-je pas torturé? N'as-tu pas souffert en découvrant que tu accordais du crédit à des fadaises? Pourtant, connaître la vérité est un bienfait, même si le processus est douloureux.
Richard pensa à une sinistre vérité. Callan l'avait obligé à porter un collier, puis elle l'avait rejeté. Cela lui mettait le nez sur une atroce réalité. Il n'était pas assez bien pour elle.
« Vous avez raison, dit-il, mais je déteste toujours autant porter un collier. »
Richard était là de parler. Sa blessure lui faisait mal, ses muscles étaient au bord de la crampe et Callan lui manquait, mais elle l'avait trahi. Des larmes dans les yeux, la peau soudain glacée, il laissa son cheval ralentir et trottiner derrière celui de la sœur. La jument arrachait des touffes d'herbe au passage et les mâchait en avançant. En temps normal, Richard ne lui aurait pas permis de manger en ayant un mort à cuillère dans la bouche. Ne pouvant pas broyer correctement l'herbe, l'animal risquait d'avoir des coliques. Et parfois, chez les chevaux, elles étaient mortelles. Pourtant, au lieu d'intervenir, le sourcier se contenta de flatter l'encolure de la jument. Il aimait avoir un compagnon qui ne le jugeait pas, ne le déclarait pas stupide et ne lui demandait rien. Alors pas question d'enquiquiner la brave bête. Valait-il mieux, au fond, être un cheval plutôt qu'un homme? Avancer, tourner, s'arrêter, rien de plus? En fait, il valait mieux être n'importe quoi d'autre que Richard râle. Malgré les propos rassurants de Verna, il n'était rien de plus qu'un prisonnier. Aucune parole mielleuse n'y changerait quelque chose. Pour recouvrer sa liberté, il devrait apprendre à contrôler le don. Quand les sœurs de la lumière le jugeraient formé, elles le relâcheraient sans doute, et même si Callan ne voulait plus de lui, il ne porterait plus de collier. C'était la bonne voie à suivre, décida-t-il. Apprendre le plus vite possible et laisser tout ça derrière lui. Zed s'était toujours émerveillé de sa vitesse d'assimilation et de son ouverture d'esprit. De fait, acquérir de nouvelles connaissances lui plaisait. Il n'en avait jamais assez, avide d'explorer des territoires inconnus. La perspective de suivre une formation le réconforta un peu. Ce ne serait peut-être pas si mal après tout. De toute façon, aucun autre chemin ne s'ouvrait plus à lui. Il repensa soudain à la façon dont Dena l'avait éduqué, dressé en réalité, et sa belle humeur s'envola. Une fois encore, il se berçait d'illusions. Les sœurs de la lumière ne le libéreraient jamais, et il n'apprendrait pas des choses qui l'intéressaient, mais exclusivement ce qu'elles désiraient lui enseigner, même s'il n'y croyait pas vraiment. La souffrance, voilà ce qu'elle voulait lui faire découvrir. C'était sans espoir. Il continua à chevaucher, de plus en plus morose. Il était le sourcier, le messager de la mort. Chaque fois qu'il tuait avec l'épée de vérité, cela s'imposait à lui. Le sourcier était le héros de la mort et sa mission consistait à détruire.
Alors que l'horizon se colorait de rose et d'or, Richard distingua des taches blanches dans le lointain. Ce n'était pas de la neige, car elle n'avait pas tenu. De plus, ces taches se déplaçaient. Verna ne fit pas de commentaire à ce sujet, se contentant de chevaucher en silence. Devant eux, le soleil couchant projetait de longues ombres. Pour la première fois, Richard s'avisa qu'il chevauchait vers l'est. Quand ils furent assez près, ils virent que les formes blanches étaient des moutons. En slalomant entre les animaux, Richard reconnut leur berger, des bantaks, à voir leur tenue. Trois hommes approchèrent du sourcier, ignorant superbement la sœur de la lumière. Ils marmonnèrent des propos qu'ils ne comprirent pas, mais leur ton et leur expression témoignaient d'une grande révérence. Ils se jetèrent à genoux, inclinèrent la tête, puis s'aplatirent sur le sol. Richard fit ralentir son cheval alors qu'il passait devant eux. Ils relevèrent les yeux et lui débitèrent un discours dont il ne saisit pas le premier mot. À tout hasard, il leva une main pour les saluer. Apparemment satisfaits, ils sourirent de toutes leurs dents et s'inclinèrent de nouveau. Puis, ils se remirent debout, marchèrent à côté de son cheval et tentèrent de lui glisser des cadeaux dans les mains. Du pain, des fruits, de la viande séchée, une vieille écharpe crasseuse, des colliers de crocs, d'os et de perles, et même leur houlette de berger. Richard afficha un sourire amical. Avec des signes qu'il espérait clairs, il tenta de refuser leurs cadeaux sans les offusquer. Un des bantaks insistait tout particulièrement pour qu'il accepte un melon. Soucieux de ne pas créer de problème, Richard le prit et inclina plusieurs fois la tête. Les bantaks se rengorgèrent et se fendirent d'une demi-douzaine de révérences enthousiastes. En s'éloignant, Richard les salua une dernière fois et rangea le melon dans sa sacoche. Verna avait attendu qu'il la rattrape. Bien qu'elle semblât agacée, le sourcier ne talonna pas sa monture. Qu'avait-il encore fait pour lui déplaire?
« Pourquoi ont-ils raconté ça ?»
demanda la sœur quand ils l'eurent rejointe.
« Racontez quoi? Je ne parle pas leur langue. »
« Ces sauvages pensent que tu es un sorcier. Pourquoi ?»«
Sans doute parce que je le leur ai dit, » fit Richard en haussant les épaules.
« Quoi ?» s'écria Verna. « Tu n'es pas un sorcier. Tu leur as menti. »«
C'est vrai, » admit Richard. « Je ne suis pas un sorcier. Donc, c'était bien un mensonge. »«
Un crime à la face du Créateur. »«
Ce n'était pas pour en tirer bénéfice, » grogna Richard. Mais afin d'éviter une guerre. Le seul moyen de sauver des centaines d'innocents, ça a marché, et pas une goutte de sang n'a coulé. Pour empêcher un massacre, je referais la même chose.
Le mensonge est un péché. Le Créateur abomine ceux qui travestissent la vérité.
Votre Créateur préfère les carnages ?
Ce n'est pas mon Créateur,
cria Verna furieuse,
mais celui de tout l'univers, et le mensonge le révulse.
Richard décida de retourner contre elle la tactique de la sœur.
Il vous l'a dit lui-même, je suppose. Il est venu s'asseoir à côté de vous et il a déclaré « Sœur Verna, sachez que j'abomine le mensonge. »
Bien entendu que non,
explosa Verna.
Mais c'est écrit dans les livres.
Alors là, ça me la coupe, lâcha Richard. Si on trouve ça dans des livres, c'est sûrement vrai. Tout le monde sait que les écrits ne mentent jamais et qu'il n'y a pas le moindre doute sur l'identité de leurs auteurs.
Tu oses faire fi des paroles du Créateur?
Et vous, sœur Verna? Vous faites fi des croyances et des vies de ceux que vous tenez pour des païens?
La sœur ne répondit pas tout de suite, histoire de se calmer un peu.
Richard, tu dois apprendre qu'il est mal de mentir. C'est un affreux péché contre le Créateur et contre nos enseignements.
Tu n'es pas plus un sorcier qu'un enfant n'est un vieillard. Te targuer d'en être un est un mensonge, pire, un blasphème, m'entends-tu? Tu n'es pas un sorcier.
Je sais qu'il ne faut pas mentir, sœur Verna.
D'ailleurs, c'est loin d'être une habitude chez moi. Mais quand il s'agit de sauver des vies, ça ne se discute plus. Je n'avais pas d'autre solution.
Dans ce cas précis, lui concéda Verna, tu as peut-être raison. Mais n'en fais pas une tactique systématique, tu n'es pas un sorcier.
Richard dévisagea la sœur, les jointures de ses doigts blanchissant sur les rênes de sa monture tant il les serrait.
« Je sais que je ne suis pas un sorcier, »
grogna-t-il. D'une pression des cuisses, il fit avancer son cheval.
Le messager de la mort, voilà ce que je suis. »
Verna tendit un bras, l'attrapa par sa chemise et le força à se retourner sur sa selle.
« Que viens-tu de dire? Comment t'es-tu appelé ?»«
Le messager de la mort. »
« Qui t'a donné ce nom ?»
demanda Verna, le teint cendreux.
« Je sais ce que porter cette épée implique, et ce que ça fait de la dégainer. Aucun des sourciers qui m'ont précédé n'en avait une telle conscience. L'arme est une part de moi, et je suis une part d'elle. J'ai utilisé sa magie pour tuer la première personne qui m'a forcé à porter un collier. Et ça m'a dévasté. J'ai menti au Bantak pour éviter une tuerie, mais ce n'était pas la seule raison. Ce sont des gens pacifiques, et je ne voulais pas qu'ils découvrent l'horreur qu'on éprouve en commettant un meurtre. Moi, je me serais bien passé de cette expérience.
Mais vous savez sans doute de quoi je parle, puisque vous avez assassiné Sœur Élisabeth.
« Qui t'a surnommé messager de la mort ?»
insista Verna.
« Personne. Je me suis baptisé ainsi parce que c'est ce que je suis et ce que je fais. »«
Je vois. »
souffla Verna en le lâchant. Alors qu'elle allait talonner son cheval, il cria son nom d'une voix pleine d'autorité qui la pétrifia.
« Pourquoi voulez-vous savoir qui m'a donné ce nom? Est-ce tellement important ?»
La colère de la sœur semblait être retombée, laissant dans son sillage une écume ourlée de peur.
« Au palais, j'ai lu toutes les prophéties, comme je te l'ai dit. L'une d'elles contient ce surnom. C'est le messager de la mort et ainsi se sera-t-il lui-même nommé. »
« Que raconte la suite ?»
lança Richard.
« Précise-t-elle que je vais vous tuer avec d'autres si nécessaire pour me débarrasser de ce collier ?»«
Les prophéties ne sont pas pour les yeux ni les oreilles des profanes. »
conclut Verna en talonnant enfin son cheval.
Richard la suivit et décida d'abandonner ce sujet. Il se fichait comme d'une guigne des prophéties. Pour lui, ce n'était rien d'autre que des devinettes et il détestait ces jeux idiots. Si une chose semblait assez grave pour qu'on la dise, pourquoi l'exprimer d'une façon emberlificotée? En chevauchant, Richard se demanda combien de gens il devrait tuer pour se débarrasser du Radahan. Un mort ou cent? Quelle importance! Sa rage était telle que ces comptes-là ne le perturbaient plus. Il serra les mâchoires et ses poings se fermèrent convulsivement sur les rênes. Le messager de la mort. Il ferait un massacre s'il le fallait. Et s'il ne réussissait pas à échapper au collier, il mourrait en essayant. L'envie de tuer coulait dans ses veines comme un flot dévastateur. Surpris, il s'avisa qu'il était en train d'invoquer la magie de l'épée. Désormais, il n'avait plus besoin de la dégainer pour ça. Au prix d'un gros effort, il contint sa fureur. En plus de la colère et de la haine de l'arme, il savait aussi invoquer sa magie blanche, soit l'exact opposé. Les sœurs de la lumière ignoraient qu'il avait cet atout dans sa manche. Pour tout dire, il espérait ne pas devoir l'utiliser contre elles, mais si ça s'imposait, il n'hésiterait pas. Pour ne plus porter le collier, il aurait recours à l'une ou à l'autre magie de l'épée, voire aux deux. Le moment venu, il saurait frapper.
Dans la lumière violette du crépuscule, sœur Verna leva une main pour ordonner une halte. L'heure de camper avait sonné. Depuis un long moment, elle ne lui avait plus adressé la parole. Était-elle toujours furieuse? Il l'ignorait, mais ça ne le tracassait pas beaucoup. Richard conduisit les chevaux vers un petit bosquet de saules près de la berge d'un ruisseau. Il leur retira leurs harnais et les attacha avec des longes. Sa jument s'ébroua, ravie d'être débarrassée du mort. Richard vit que c'était un des modèles les plus cruels, chaque impulsion sur les rênes valant une vive douleur au cheval. Les gens qui utilisaient ce type de mort, selon lui, tenait les chevaux pour de vulgaires animaux que l'homme devait conquérir et mater. Avec un mort comme ça dans la bouche, ils auraient vu combien c'était agréable. Une punition méritée. Bien entraîné, un cheval avait simplement besoin d'un mort articulé, beaucoup plus agréable. Et avec un peu de compréhension pour sa monture, on pouvait même s'en passer carrément. Mais certaines personnes préféraient la coercition à la patience. Il tendit une main et tenta de caresser les oreilles aux pointes noires de la jument, qui releva aussitôt la tête pour la mettre hors de portée de l'humain.
« Je vois, » souffla Richard. « Tes maîtres ont aussi l'habitude de te flanquer des coups de cravache sur les oreilles. »
Il flatta l'encolure de l'animal qui ne se rebiffa pas. « Avec moi, tu n'as rien à craindre, mon ami. »
Richard alla puiser de l'eau dans un seau en toile et fit boire leurs trois montures. À peine quelques gorgées, aussi peu de temps après un effort. Dans une des sacoches, il dénicha des brosses et étria soigneusement les bêtes, sans oublier de leur nettoyer les sabots. Il y passa plus de temps que nécessaire, car il préférait leur compagnie à celle de la sœur. Quand il eut fini, il pela en partie le melon et distribua cette gâterie aux chevaux. Comme les humains, ils appréciaient les bonnes choses et le lui montrèrent. La première fois qu'il les voyait heureux. Avec le genre de mort qu'il portait, ça n'avait rien d'étonnant. Quand sa blessure lui fit trop mal pour qu'il continue à rester debout, le sourcier alla rejoindre Verna, assis sur une petite couverture, et déroula la sienne aussi loin que possible. Une fois installé, il tira de son sac un morceau de pain de tava, plus pour s'occuper les mains que parce qu'il avait faim. Il coupa le melon, réservant le reste de la peau pour les chevaux, et en offrit une tranche à Verna. Elle ne broncha pas.
« Ce fruit t'a été offert pour une mauvaise raison. »
« Non, pour me remercier d'avoir évité une guerre. » La sœur accepta l'offrande sans grand enthousiasme. « Je prendrai le premier tour de garde, » proposa Richard.
« Inutile, nous n'avons pas besoin de sentinelles. »
« Des chiens à cœur rôdent dans les contrées du milieu, et d'autres monstres. Sans parler des grinceurs qui pourraient de nouveau s'en prendre à moi, monter la garde serait judicieux. »«
Tu es en sécurité avec moi, oublie ça. »
Verna ne s'était pas vraiment calmée. Comprit Richard à son ton. Après avoir mangé un moment en silence, il décida d'alléger l'atmosphère. Bien qu'il ne fût pas le moins du monde joyeux, il essaya de parler d'une voix guillerette.
« Puisque nous sommes ensemble et que je porte le Radahan, pourquoi ne commencerions-nous pas les leçons ?»«
Nous aurons tout le temps au palais des prophètes, »
lâcha Verna. La colère de l'épée implora Richard de la laisser se déchaîner. À grand-peine, il la refoula.
« Comme vous voudrez. »
Verna s'allongea et s'emmitoufla dans son manteau.
« J'ai froid. Allume un feu. »
Richard mâcha et avala sa dernière bouchée de tava avant de répondre.
« Je m'étonne que vous soyez si ignorante en magie, sœur Verna. Une formule très simple fait des miracles, et vous devez sûrement l'avoir entendue un jour. »«
S'il te plaît. »
Le sourcier se leva.
« Moi, je n'ai pas froid. Si vous avez besoin d'un feu, allumez-le vous-même. À présent, je vais monter la garde. Comme je vous l'ai dit, je ne prends jamais rien pour acquis. Si nous devons être tués cette nuit, ce ne sera pas pendant mon tour de garde. »
Il s'éloigna sans attendre de réponse. Ce que Verna avait à dire ne l'intéressait pas. Assez loin de leur camp, il trouva un monticule de terre près de la tanière d'une marmotte et s'assit dessus pour surveiller les environs et réfléchir. La lumière de la pleine lune suffisait pour qu'il voie un danger arriver de loin. Et il sonda le paysage, plus morose que jamais. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à oublier son obsession. Kalan. Il essuya les larmes qui perlaient à ses paupières, puis il plia les genoux et les entoura de ses bras. Que faisait Kalan en ce moment? Se souciait-elle encore assez de lui pour être allée rejoindre Zed? Sous ses yeux, la lune se déplaçait lentement dans le ciel. Qu'allait-il faire? Jamais il ne s'était senti aussi perdu. Il imagina le doux visage de Kalan. Pour un sourire d'elle, il aurait conquis le monde et décroché la lune afin qu'elle continue à l'aimer. En imagination, il admira ses splendides yeux verts, ses longs cheveux noirs, ses cheveux. Soudain, il se souvint de la mèche qu'elle avait glissée dans sa poche. La sortant, il la contempla à la lueur de la lune. À la façon dont elle les avait attachés avec le ruban, les cheveux qui formaient une double boucle évoquaient irrésistiblement un 8. Si on les tournait un peu, ils devenaient le symbole de l'infini. Richard fit rouler la mèche entre son pouce et son index. Kalan la lui avait donnée pour qu'il ne l'oublie pas, tout simplement, comprit-il, parce qu'il ne la reverrait jamais. Un cadeau d'adieu. Désespéré, Richard saisit la gielle et le serra jusqu'à ce que son bras tremble. Mêlé à son chagrin, la douleur devint vite intolérable. Il la laissa pourtant brouiller son esprit, jusqu'à ce que son corps implore grâce. Là encore, il insista, subissant les assauts de la souffrance au point de s'écrouler au pied du monticule, à peine conscient.
Un instant, même si le prix était terrible, la douleur avait vidé son esprit de toute pensée. Il resta étendu sur le sol un long moment, la tête vide, pendant qu'il récupérait. Quand il put se rasseoir, il découvrit qu'il tenait toujours la mèche de cheveux. Il la regarda fixement, se souvenant de l'accusation de Verna. Il avait menti au Bantak. Callan aussi lui avait reproché d'être un menteur. Son amour pour elle, avait-elle dit, ce n'était qu'une illusion. Ces mots faisaient encore plus mal que la JL.
« Je ne t'ai jamais menti, Callan, » gémit-il. « Je ferai n'importe quoi pour toi. »
Mais ça ne suffisait pas. Même accepter le collier n'était pas assez. Elle ne le jugeait pas digne d'elle, le fils d'un monstre. Soudain, il comprit ce qu'elle voulait. Être débarrassée de lui. Elle l'avait forcé à mettre le Radahan pour qu'il parte et lui fiche enfin la paix.
« Je ferai n'importe quoi pour toi, Callan, » répéta-t-il.
Il se leva et sonda les plaines désertes et obscures.
« N'importe quoi. Même ça. Je te libère de moi, mon amour. »
Richard jeta la mèche de cheveux aussi loin qu'il le put. Puis il tomba à genoux face contre terre et pleura jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Gisant sur le sol glacé, il gémit de douleur, sans s'apercevoir qu'il avait de nouveau saisi la JL. Une éternité plus tard, il s'en avisa, le lâcha et se rassit, le dos contre le monticule de terre. Tout était fini. Il se sentait vide, vide et mort. Dès qu'il estima que ses jambes le porteraient, il se leva et dégaina l'épée de vérité. La note métallique retentit. Et la colère de l'arme déferla en lui. Il ne lutta pas pour la repousser, accueillant la rage de tuer comme une délivrance. Alors il tourna la tête vers le camp où dormait la sœur. Il approcha en silence, indétectable comme tout bon guide forestier. Et lui, il était un champion à ce jeu. Les yeux rivés sur Verna, il ne se pressa pas, certain d'avoir tout le temps du monde à sa disposition. Mais il ne fallait pas respirer aussi fort, ça risquait de réveiller sa proie. L'idée de porter de nouveau un collier acheva de le rendre foudrage. La magie de l'épée coulait en lui comme du métal en fusion, et il savait où cela le conduirait. Il s'abandonna à la fureur, conscient que plus rien ne l'arrêterait. Pour étancher la soif du messager de la mort, seul le sang convenait. Ses phalanges blanchirent sur la garde de l'arme, tous ses muscles tendus à craquer et avides de frapper. Bientôt, il serait satisfait. Dans un instant, le sang de Verna coulerait. Arrivé près de la sœur, il se pencha vers elle et passa le tranchant de l'épée au creux de son bras, l'abreuvant déjà d'un peu de sang, un avant-goût. Le fluide vital coula le long de la lame et sur la peau de son bras. Haletant, il prit la garde à deux mains. Conscient de la pression du collier sur son cou, il leva l'épée qui scintilla au clair de lune. Verna était roulée en boule. Transie de froid, elle frissonnait dans son sommeil.
La rage explosa en Richard. Callan l'avait rejetée. Elle ne voulait pas du fils d'un monstre. Non, elle refusait de vivre avec un monstre simplement. Debout devant une femme endormie, prêt à lui transpercer le cœur avec sa lame, qu'était-il d'autre qu'un monstre ? Callan l'avait vue sous son vrai jour. Alors elle l'avait envoyé au loin, un collier autour du cou, pour qu'on le torture. Et elle avait raison, car il n'était rien d'autre que cela, une bête qu'il fallait tenir en laisse.
Des larmes roulèrent sur ses joues. Il baissa lentement son épée jusqu'à ce que la pointe touche le sol. Un long moment, il regarda Verna dormir en tremblant de froid. Une femme sans défense. Il rengaina son épée, alla chercher sa couverture et l'étendit sur la sœur sans la réveiller. Attendant qu'elle cesse de frissonner, il s'autorisa à s'allonger, emmitouflé dans son manteau. Bien qu'épuisé et perclus de douleur, il ne parvint pas à s'endormir. Verna et les siennes, il le savait, le tortureraient. À quoi aurait servi le collier sinon ? Dès qu'ils arriveraient au palais, son calvaire commencerait, et alors ? Quelle importance, puisqu'il souffrait déjà 1000 morts ? Il revit Dena, et se souvint de ce qu'elle lui avait fait, un océan de douleur et des torrents de sang, son sang.
Les images défilèrent dans sa tête. Jusqu'à son dernier souffle, il serait incapable de les oublier. À présent, ça allait recommencer et ça ne finirait jamais. Une seule idée le réconfortait. Grâce à Verna, il savait que le gardien ne menaçait pas de s'évader. Donc, Callan était en sécurité. La seule chose qui comptait vraiment, l'unique pensée qui devait occuper son esprit et qui l'autorisa un peu rassuré à sombrer enfin dans le sommeil.